OK, 16h19, de retour en studio.
Juste
à l'instant, là, les experts de la santé publique sont en train de prendre la parole dans cette conférence de presse. On va parler des fameux scénarios.
Ils avaient des caractéristiques importantes pour se comparer. Des modèles où est-ce que les gens sont intervenus plus tardivement, parce qu'ils ont détecté l'épidémie plus tardivement, je pense à l'Italie, et c'est un facteur important qui a modulé la transmission. D'autres pour lesquels il y a eu des interventions rapides, et ça a été un facteur très important dans le contrôle. Donc, j'imagine que vous aurez peut-être des questions en lien avec ça. En même temps, il faut comprendre que quand on fait des scénarios, ces scénarios-là sont une prévision de la réalité, mais ils ne sont pas la réalité. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer l'évolution de l'épidémie au Québec, de la pandémie au niveau mondial. Et un de ces facteurs-là, c'est certainement les mesures qui ont été prises rapidement par le gouvernement du Québec pour contrôler la transmission. Et si les gens maintiennent l'attitude qu'ils ont eue jusqu'à date, on a eu des résultats assez importants, un succès, on devrait dire, à date. Et il ne faut surtout pas les relâcher. Donc, on pourrait accepter vos questions, à moins que M. Gendron ait un commentaire supplémentaire qu'il veuille donner pour l'organisation des services.
Bien, j'aurais quelques messages à passer, mais il est certain que moi, en fonction de mon rôle comme sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, là, bien sûr, sous le leadership de nos trois ministres, là, il était important de s'assurer qu'on puisse capter les informations nécessaires pour organiser les services, pour être prêt d'avance et bien d'avance, pour ne pas être pris là, à la dernière minute là, à savoir comment on s'organise, comment on libère des lits, comment on s'assure qu'aux soins à domicile, on soit auprès de la population, des gens qui sont vulnérables, d'être à l'affût de leurs besoins tout le temps. Je pense aussi aux jeunes, à leurs familles, aux gens qui sont dans les centres de jeunesse. Là. Donc, peu importe le secteur ou surtout notre clientèle, il fallait être prêt. L'itinérance, c'est la même chose. Hein, l'itinérance dépendante dans les secteurs de la ville de Montréal, par exemple, ou de d'autres villes, peu importe. Nous, il fallait savoir là, qu'est-ce qui risque de se passer en fonction de l'expérience acquise des autres pays, des différents scénarios, et en fonction des faits réels qui sont observés actuellement, tant au niveau du nombre de cas, du taux d'hospitalisation, du nombre de cas qui est en soins intensifs, et s'assurer quel retour, finalement, comment on s'assure d'un retour adéquat en sécurité pour l'ensemble de la clientèle. Donc, c'est un grand défi. Donc, on devait planifier, être prêt, bien sûr, en tenant compte des ressources disponibles, que sont, bien sûr, notre personnel, les médecins, là, parce qu'eux aussi, ils vont être atteints, donc, à un différent niveau. Donc, on veut s'assurer qu'ils soient bien protégés pour bien soigner, pour être disponibles pour l'ensemble là, des besoins des différentes clientèles, qu'elles soient vulnérables, très vulnérables ou moins vulnérables. Donc, là-dessus, bien sûr, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, tant au niveau de la planification des lits, par exemple, en centre hospitalier, tant au niveau aussi de s'assurer d'avoir le bon équipement. Et là-dessus, c'est un combat, hein, vous l'avez vu, hein, c'est un combat mondial pour l'acquisition des différents équipements, qu'ils soient masques, blouses, gants, etc. Je n'ai pas besoin de vous les nommer. Donc là-dessus, en fonction des données qui ont été observées et qui nous sont données jour après jour, on s'adapte pour être bien prêt pour faire face justement à ces besoins-là de la population.
Merci à vous deux. Alors, si vous êtes prêts à prendre les questions des collègues de la Tribune de la Presse, nous allons débuter avec Olivier Bossé, du journal Le Soleil.
Bonjour. Évidemment, ces deux scénarios, si je comprends bien, c'est que ces graphiques-là appliquent les chiffres des autres de ces deux autres pays aux chiffres du Québec, bien, au Québec. Donc, est-ce que c'est possible de savoir où on va se retrouver entre les deux?
Comme ça a été mentionné déjà, c'est extrêmement difficile de mettre un chiffre précis où est-ce qu'on va se retrouver. C'est pour ça qu'on a arrêté la courbe au réel, pour que vous puissiez vous-même voir que si on pense que les choses se déroulent bien par rapport à un pays qui a beaucoup de caractéristiques qui se rapprochent de nous, à ce moment-là, on va être vraiment proche du scénario optimiste. On ne sera certainement pas proche du scénario pessimiste. Mais si vous me demandez un chiffre entre les deux chiffres qu'il y a là, je ne vais pas vous mettre un chiffre précis. Mais je vais vous dire, on va être certainement proche du chiffre optimiste pour ce qui est du nombre de cas, puis pour ce qui est du nombre de décès, parce que c'est l'autre chiffre dur. Bien, vous voyez la courbe comme nous, ce n'est pas le même pays qui est comparé, mais ça montre qu'aussi, on est dans une position relativement favorable. Il y a plein d'autres pays qu'on aurait pu comparer en Europe, mais ces pays-là, on les a pris parce qu'il y avait soit des performances qui étaient moins bonnes, pas parce que les pays sont moins bons, parce qu'ils ont commencé à intervenir plus tardivement. Le diagnostic de la transmission dans des centres urbains dans le nord de l'Italie s'est fait tardivement. Il y avait déjà plusieurs générations de transmission quand c'est arrivé. Puis là, les modèles montrent que quand il y a un retard pour commencer à appliquer les mesures, ça donne des chiffres qui sont un scénario extrêmement difficile, pénible, difficile à vivre. Alors que la comparaison des scénarios optimistes, c'est quand les gens interviennent rapidement. Ça, c'est le premier facteur, et on est intervenu très rapidement. Le deuxième, c'est la fonction de la compliance des gens aux mesures qui sont mises en place. Puis là, ben, je vous réfère au sondage Google qu'on a eu cette semaine, qui montre que les Québécois sont vraiment de façon exemplaire. Il y a toujours des exceptions, mais ils sont vraiment exemplaires. Et ça, c'est un facteur extrêmement important pour être capable de voir la suite des choses. Et là-dessus, ça nous met dans une situation qui est pas les meilleurs au monde, là, on n'est pas là-dedans, mais je dirais parmi les gens qui ont fait les bonnes mesures au bon moment puis qui devraient avoir moins de mauvaises conséquences que ce qu'on voit. Donc, relativement optimiste par rapport au scénario à arriver, effectivement.
Autre question?
Je suis curieux de savoir, M. Massé, si vous étiez, vous, du côté des favorables à dévoiler ça ou pas. C'était quoi votre... C'est quel côté vous penchiez?
J'ai, pourquoi, j'étais, surtout? J'étais, personnellement, j'étais mal à l'aise de faire une projection bien au-delà de ce qui est mis là. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des projections qui sont beaucoup plus loin en avant de nous. Pas, des gens pas loin de nous, la province à côté. Et puis... On était extrêmement mal d'aller dans une situation comme ça parce qu'il y a trop de facteurs qui peuvent intervenir, notamment si on change les mesures puis on relâche les mesures. Il va falloir reprendre la vie, reprendre l'économie. Et donc, ça, c'est un facteur très important qui peut changer la transmission. La deuxième, c'est qu'il peut intervenir des médicaments. Puis il y a plusieurs recherches qui se font sur des médicaments, même ici au Québec, plusieurs études qui sont en cours, mais avec un volet
16h25, national. OK, on interrompt la conférence de presse. C'est un peu technique. Et vous dire aussi là, que il y a eu ce qu'on appelle un brefage aux journalistes avant. Donc, les experts étaient là, à micro fermé, et on a expliqué aux journalistes, voici les faits, voici nos scénarios, voici nos projections. Louis Lacroix, notre chef de bureau à l'Assemblée nationale, était là. Louis est au bout du fil. Salut, Louis.
Oui, salut.
OK. Qu'est-ce qui a été présenté en termes de scénario?
Bon. OK. Alors, juste une petite explication technique en commençant pour que vous compreniez bien les chiffres. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur les données qu'on a recueillies, la façon dont ça a progressé dans différents pays. On a pris, pour le scénario, on a deux scénarios, là, un optimiste, un qui est pessimiste. Pour le scénario optimiste, au niveau des décès, on s'est basé sur ce qui s'est passé en Allemagne, parce que on s'est aperçu qu'en Allemagne, ils avaient bien géré la crise et c'est eux qui ont eu le moins d'incidence au niveau des décès. Au niveau pessimiste, évidemment, on s'est basé sur l'Italie où il y a eu vraiment une pandémie très importante là-bas. Donc, on prend les données de là-bas et on les, si on veut, on les adapte à notre population, à ce qu'on fait, nous, ici, au Québec. Okay. De sorte qu'on a scénario A, scénario B. Le scénario A, c'est-à-dire le scénario le plus optimiste, démontre que au 30 avril, c'est le plus loin qu'on puisse aller, au 30 avril, si on se fie au scénario le plus optimiste, il pourrait y avoir jusqu'à 1263 décès qui soient liés au coronavirus.
Mais Louis, je t'arrête juste une seconde, parce qu'il faut prévenir les gens, là, OK? Là, ce ne sont pas des chiffres absolus, ce sont des prévisions, ce sont des extrapolations. Et je réfère au texte de ton collègue Tommy Chouinard de La Presse qui dit, écoutez, il y a le scénario optimiste, c'est un scénario. Présentement, là, pour ce qui est des hospitalisations, on est à 500... Présentement, là, on est à mi-chemin du scénario optimiste. On est... Le réel est plus réjouissant que le scénario optimiste qui était prévu par Québec.
Bien, ça dépend sur quel tableau tu regardes, mais effectivement, là, il y a des données qui démontrent qu'au Québec, on est quand même pas si mauvais, là. Alors, mais je vais juste terminer avec les décès parce que c'est, évidemment, c'est la donnée qui est la plus inquiétante, la plus spectaculaire. Alors, selon le scénario qu'ils nous ont présenté le plus optimiste, il y aurait 1263 décès au 30 avril. Le scénario le plus pessimiste, basé sur les données et la façon dont ça a progressé en Italie, fait état au Québec de 8860 décès. Ça, c'est si vraiment là ça va mal, puis qu'on est plus capable de contrôler, puis que ça part vraiment en peur, là, comme c'est parti en Italie. La réalité, notre réalité à nous, parce qu'on a le nombre de cas réels, là, nous, on est à 150 en ce moment des décès. Alors, si on fait la projection, et on a le graphique devant nous là qui le démontre, on est un peu au-dessus de l'Allemagne, et beaucoup en bas de l'Italie. Donc, la vérité, là, elle se situe quelque part entre 1263 et 8860. Ça, c'est pour les décès, OK?
Oui.
Maintenant, si on regarde l'autre donnée, qui peut être spectaculaire également, c'est le nombre de personnes qui vont être touchées par le coronavirus, des cas déclarés. Alors, encore une fois, là, on s'est basé scénario A, scénario B, scénario optimiste. Au 30 avril, il y aurait 29 212 personnes qui seraient touchées par le coronavirus au Québec. Ça, c'est le scénario optimiste. Le pessimiste serait de 59 845 cas, près de 60 000 cas. Mais encore une fois, le réel, à nous, est un peu au-dessus du scénario optimiste et beaucoup en bas du scénario pessimiste. Donc, si tu suis la courbe, là, en suivant le graphique, ça nous amènerait quelque part autour de 34 000, 35 000 personnes qui pourraient être touchées. Ça, ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir, ça ne veut pas dire qu'ils vont être hospitalisés, ça veut pas dire, mais c'est les gens qui vont être diagnostiqués avec le coronavirus. Ça, c'est vraiment là, les deux données spectaculaires. L'autre chose dont il faut tenir compte et qu'on nous présente, c'est bien sûr les hospitalisations et tout ça. Le pic aussi, là, parce qu'à un moment donné, ça monte, puis ça se met à redescendre. Alors, le pic, si on veut, de cette fameuse courbe dont parle le docteur Arruda, arrive quelque part autour du 18 avril. Alors, évidemment, c'est une projection, c'est pas une donnée absolue, là. Alors, ça serait autour du 18, 19, 20 avril, peut-être un peu avant, peut-être un peu après. Et par la suite, là, ça se met à redescendre pour faire en sorte que, au niveau des hospitalisations, lorsqu'on arrive au pic, là, le 18 avril, on a autour de 3000 personnes qui seraient hospitalisées. Et après, ça se met à redescendre assez rapidement, de sorte que, rendu au 30 avril, là, on tourne autour de 1200 personnes hospitalisées. Alors donc, on peut voir là qu'à partir de juste un petit peu après la mi-avril, si on se fie aux projections et ce qui s'est passé dans les autres pays, ça va se mettre à redescendre progressivement pour nous amener là vers quelque chose de beaucoup plus raisonnable autour du 30 avril.
Excellent résumé. Merci, Louis.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Très bien. Parfait. On l'entend tous les jours ici à l'émission un peu après 16 heures. Il s'agit de Dr Gaétan Barrette. On a décidé de le faire entrer dans l'émission un peu plus tard, après la présentation de ces scénarios. Il est au bout du fil. Dr Barrette, bonjour.
Bonjour.
OK, qu'est-ce que vous retenez de ces scénarios qui ont enfin été présentés?
Comme toujours, et ça c'est important, là, deux choses. Ne lançons pas des pierres à des gens qui ont fait une projection basée sur des comparaisons bien faites et sur une science, là, qui est imprécise, c'est correct. Moi, ce que je vois là, je n'ai pas grand critique méthodologique à faire. Bon, premièrement. Deuxièmement, retenons une chose. Le pire scénario, c'est pas l'Italie. Le pire scénario, c'est si on a quelque chose qui ressemble à l'Italie en fonction de notre évolution à nous. Et le pire scénario tel que exprimé dans les tableaux, ben avec la préparation qu'on a, on est capable de prendre. Ça, c'est une méchante de bonne nouvelle, là.
Oui. Parce que vous et moi, Dr Barrette, on parle souvent de cet indicateur capital que sont les hospitalisations en soins intensifs. Ok, si on dépasse la capacité, là, c'est là que nos hôpitaux vont être submergés. Puis dans le scénario optimiste, au sommet de la courbe, il y aurait 468 personnes hospitalisées. Dans le scénario négatif, là, pessimiste à l'italienne, on est à 1009. Là, on est débordé. À 468, on est limite, mais on n'est pas débordé.
C'est-à-dire pour les soins intensifs existants, mais on a prévu que si des gens nécessitaient l'équipement de soins intensifs, notamment les respirateurs, on en avait assez pour leur donner accès à l'extérieur des soins intensifs. Alors, dans le pire scénario, on est capable de prendre. Bon, c'est sûr qu'on est un petit peu étiré, là, puis il y aurait de la tension dans le réseau, là, mais on est capable de prendre. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Okay.
La question des décès, des morts. Là, vous avez remarqué que dans les tableaux, dépendamment du tableau, on ne se compare pas nécessairement au même pays.
Oui, des fois c'est l'Italie, des fois c'est l'Allemagne. Là.
Et là, le tableau des décès, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne, actuellement, c'est le champion de l'Europe. Ça fait que là, vous voyez notre courbe à nous qui est au-dessus de l'Allemagne, mais c'est celui qui fait le mieux actuellement en Europe. Ça fait qu'il ne faut pas voir ça négativement. J'ai pas vérifié, j'ai pas eu le temps là avec le Portugal parce que j'ai pas la donnée dans le temps, là, ça me prendrait un certain temps pour la sortir. Mais là aujourd'hui, on nous a mis l'Allemagne. Oui, mais l'Allemagne c'est le champion. Ça fait que faut pas voir cette partie-là des tableaux comme étant une mauvaise nouvelle. Quand on se compare au meilleur puis qu'on est proche du meilleur, ben on est d'un bon. Ça fait que probablement que si on se comparait au Portugal, peut-être qu'on serait meilleur que le Portugal. Alors, les trois autres tableaux là, qui sont au-dessus, ce sont des tableaux comparés avec le Portugal. Alors là, moi, je trouve que quand je vois une partie optimiste qui qu'on semble être dedans, là, puis que la pessimiste, on est capable de la prendre, bien, c'est une méchante de bonne nouvelle aujourd'hui, là.
C'est pas, on n'est pas dans le scénario catastrophe. À quel point vous pensez est-ce que la discipline des Québécois depuis quelques semaines, là, ça joue dans ces, dans le côté rassurant de ces scénarios-là?
C'est drôle parce que dans le fond, là, on a des scientifiques qui viennent valider Google ou Google vient de valider les scientifiques. Moi, oui. Ça m'impressionne beaucoup parce que.
Ben d'accord.
Google, là, ce qu'il dit, là, c'est qu'on l'a bien fait. Et les tableaux d'aujourd'hui disent que c'est le moment où on met les mesures en place. Ça, c'est important. Je ne sais pas si ça a été dit dans le point de presse. Mais quand on regarde, j'ai vérifié, le Portugal, il a fait comme nous au même moment. Alors, Google, là, c'est ça qu'il nous dit. Alors, la bonne mesure au bon moment, ça donne ça. Alors, alléluia, on a la recette. Là.
Juste pour rappel, Dr Barrette, quand on dit Google nous dit ça, c'est que Google a sorti des chiffres de géolocalisation des téléphones portables. Okay? On sait à quel point Google en sait long sur nos vies. C'est pas toujours le fun de savoir ce que Google sait sur nous, mais dans ce cas-là, ce que Google a pu montrer, c'est que les consignes ont été respectées et on est, sans être des modèles, on est, disons, admirable de discipline individuelle et collective.
Exactement. Et là, arrive la question suivante. Est-ce que ça, là, ça va envoyer le message aux gens, regardez donc comme ça va bien, on arrête?
Oui.
Ça serait l'erreur monumentale.
Ça, c'est le côté dangereux là, de ce qu'on de s'auto-congratuler.
Oui, ça. Là. Ce PD libéral, maintenant, on le fera à la fin du mois de mai, au début du mois de juin, parce qu'il va falloir continuer. Moi, le message que ça m'envoie aujourd'hui, là, puis que moi j'enverrai personnellement à la population, là, pas au mois d'avril, on est encore dedans, là. Tout le monde comprend qu'on est encore dedans. Mais quand va arriver le mois de mai, là, à ceux et celles qui nous écoutent, là, il va falloir continuer la distanciation, lavage de mains, et ainsi de suite. Nous tous, on va jouer notre été. On va jouer nos vacances.
Oui.
Parce que si on arrête, ça c'est démontré, là, ça me surprend qu'on n'ait pas montré des graphiques, là, mais ça c'est démontré, on arrête dans la partie descendante, ça repart. Repartir, ça veut dire qu'on recommence. Et normalement, on ne veut pas ça. Fait que s'il fallait un argument pour convaincre le monde, là, autre que la science, la santé, les décès, les soins intensifs, là, ben regardez, là, on va jouer l'été, là. Dans le mois de mai, là, pensez tout à vos vacances, là, si jamais on se relâche, ben peut-être qu'on n'aura pas un bel été. Alors, est-ce qu'un dîner sur une terrasse, ça vaut un été sans terrasse? Bonne question à poser, ça.
C'est une bonne image. Si on est trop pressé, on risque de scraper notre été et nos vacances.
Et ça, c'est la vie. Hein. C'est, quand on pense à ça, là, c'est vraiment la vie. Combien de fois qu'on peut faire la métaphore du hockey? Là, on a perdu combien de périodes de game de hockey en troisième période, nous autres? Là?
Beaucoup!
Beaucoup! Hein?
Les mauvais buts en début et en fin de période.
Oui, puis dans les trois dernières minutes. Mais c'est la métaphore, là, actuellement, écoutez, elle est parfaite. Je dis pas ça pour moi, là. Je dis qu'on a tellement d'expérience avec ça dans la dernière année, là. Mais c'est vraiment, vraiment comme ça. Alors, moi, aujourd'hui, là, c'est une bonne nouvelle. Ça pose la question qui vient après, par exemple. Combien de personnes ont été infectées pour l'immunité collective? Hein, moi, qu'il y ait, là, 29 000 personnes qui soient positives, là, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Ça a l'intérêt pour le suivi, là, prévoir qu'est-ce qui va arriver. Ça, c'est vrai.
Oui.
Mais pour l'immunité collective, là, l'immunité de masse, là, il n'y en a pas 29 000. Ça se peut pas qu'il y ait juste eu 29 000. Il y en a-tu eu 290 000? Il y en a-tu eu 400 000? Ça va demander des analyses dites sérologiques qui vont être faites. Je pense bien qu'ils vont être faites. Je ne peux pas croire qu'ils ne les feront pas. Et ça, là, savoir ça, ça va nous dire comment on doit se préparer pour l'automne parce qu'il y a fort à parier là, que le virus ne va pas disparaître comme ça dans la nature. Et comme on sait qu'on n'est pas sûr d'avoir nécessairement soit un vaccin, soit un médicament, ben, il va falloir se préparer. Alors là, c'est pas fini. C'est juste, là, On est là. On est en première entracte.
Docteur Barrette, je veux juste revenir sur une chose que vous avez dite précédemment. Il y a 633 lits en soins intensifs au Québec de disponibles à l'heure actuelle. Dans le scénario optimiste, là, autour du 21-22 avril, il y aurait 468 de ces lits-là qui seraient occupés. Puis dans le scénario pessimiste, il nous en manque 350. Mais vous dites que ça ne vous inquiète pas tant que ça parce qu'il y aurait des solutions palliatives aux lits en soins intensifs, c'est bien
oui,
ça?
Oui, tout à fait, parce que la personne, là, en fait, la ministre avait dit à un moment donné qu'il y avait 578 lits, à un moment donné, c'était 500, mettons, on va dire 500, là, pour faire un chiffron. Si on a besoin de 650 lits, 1000 lits, les gens qui ont besoin de ça, c'est parce qu'ils ont besoin de traitement intensif. Le traitement intensif, c'est le respirateur mécanique, le ventilateur, avec un inhalothérapeute qui connaît ça, une infirmière qui connaît ça. C'est ça, ces soins intensifs-là. Les soins intensifs, là, pour ces patients-là, c'est en premier, d'abord, avant tout, un ventilateur mécanique, un respirateur mécanique, et évidemment, des soins pour les comorbidités si la personne en a. Ça, on peut donner ça à l'extérieur des soins. C'est pas parfait, ça demande de l'organisation pour le matériel, le personnel. Une infirmière aux soins aime être dans ses affaires, parce que les affaires sont organisées physiquement pour faire face à ça. Quand on est en dehors, bon, ça roule peut-être un peu moins bien, mais le respirateur, lui, il marche pareil. Alors, si on est capable de prendre, on a 3000 respirateurs. Fait que si on avait à utiliser 1000 respirateurs, on peut le faire. Puis là, il y a les autres hospitalisations qui arrivent en même temps, qui prennent de la place. Ça, c'est le 6000 lits qu'on a de besoin. Dans ces 6000 lits en dehors des soins, il y en a qui sont utilisés pour, seraient utilisés pour des respirateurs. Il y en a qui sont utilisés par des patients hospitalisés parce qu'ils vont pas bien, mais qui ne demandent pas de respirateur. Alors, quand moi, je regarde le tableau là en question, ben, écoutez, moi, je suis capable de le prendre. Là, c'est sûr que c'est pas des vacances. Là, le personnel, là, il y aurait besoin de vacances après. Là. Faut qu'il y ait des vacances après ça. Là. Mais on est capable de le prendre. C'est une bonne nouvelle, ça. Mais tout ça n'arrivera pas si on ne maintient pas les mesures. Mais c'est ça la patente pour les lits, tout simplement.
Parfait. Merci beaucoup, Dr. Barrette. Très clair, comme d'habitude.
Merci. Bonne journée.
Merci. 16h41. Moi, je vous le dis, je lis ça. Évidemment, la manchette frappe l'imaginaire de 1263 à 8860 décès. Ça frappe l'imaginaire. On prend notre gaz égal. On est dans les bons scénarios présentement. Même, je pense qu'on est à certains égards meilleur que les scénarios optimistes, Philippe. Donc, c'est dit. Vous avez entendu Dr. Barrette. On prend notre gaz égal. 16h41.